9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour Eric Carrière.
Bonjour Monsieur Cohen.
Comme chef du service des soins palliatifs au CHU de Reims, vous avez suivi Vincent Lambert pendant 6 ans, depuis son accident de la route en 2008 jusqu'au début du drame familial après un premier arrêt des soins. Face à vous, une journaliste de l'hebdomadaire La Vie qui a longuement enquêté sur ce dossier et vu à peu près tout le monde. Bonjour Olivier Alcaïm.
Bonjour Monsieur.
Eric Carrière, avant toute chose, je voudrais que vous nous disiez quel est l'état réel de Vincent Lambert. C'est le cœur du débat puisque les parents, leurs avocats et un certain nombre de médecins nous disent il n'est pas en fin de vie, il ne survit pas grâce à une machine, il n'est pas un légume, c'est un homme gravement handicapé. Que dites-vous ?
Je dis que depuis 2014 que je l'ai quitté, l'état de M. Lambert a été consolidé comme un patient en état végétatif, chronique, irréversible. Les mots ont du sens, cela veut dire que malheureusement, il est en incapacité de réaction, qu'il n'a plus de conscience et qu'aujourd'hui, M. Lambert survit. Non seulement parce que ce qu'on appelle les régions sous-encéphaliques sont maintenues, ce qu'on appelle le tronc cérébral pour faire très court, et donc les fonctions végétatives spontanées fonctionnent, comme le cœur, comme le digestif. Par contre, il n'a plus aucune sensation de faim, de soif consciente. Par contre, son corps réagit et il est maintenu en vie par une technique de réanimation qu'on appelle la réanimation nutritionnelle et d'hydratation par une sonde qui arrive directement dans son estomac.
Vous êtes certain de ça ? Il n'est pas conscient ?
Alors nous sommes certains qu'il n'est plus conscient, encore une fois ce n'est pas simplement le médecin que je suis qui le dit, il a bénéficié à travers tous les recours judiciaires de toutes les expertises, il en avait déjà eu avant que je prenne mes deux décisions en 2013-2014 à Liège par le professeur Lorès, il a bénéficié des équipes de NACACH à Paris pendant une semaine d'observation à la demande du Conseil d'État en 2014. Aujourd'hui, il a bénéficié des meilleures explorations fonctionnelles. Nous sommes aujourd'hui en 2019. La France et le monde médical s'est aujourd'hui fixé avec beaucoup de lucidité le pronostic d'un cérébrolésie grave.
Mais j'ai lu que fin 2012, vous l'aviez senti réfractaire à certains soins et que vous aviez même décelé une
souffrance.
Une souffrance et une volonté d'en finir. C'est donc qu'il est conscient, qu'il a une forme
Alors,
de conscience.
Plus exactement, non. Là aussi, les professionnels des neurosciences nous confirment bien qu'un état végétatif, le corps peut souffrir, le corps peut ressentir, mais le patient n'en a plus conscience. Mais n'empêche que le corps souffre. Ça reste, là aussi, les experts en 2014 l'ont confirmé.
Oui. Alors, bon, il y a malheureusement ces... Je dis malheureusement parce qu'évidemment c'est choquant, ces vidéos diffusées par la famille, par une partie de la famille, vous dites il peut pas communiquer Vincent Lambert, mais il donne l'impression de vouloir exprimer des choses par des mouvements de tête, d'yeux, de paupières, c'est vrai
Alors,
ou pas ?
Le corps a ses réflexes, encore une fois le mouvement des paupières que vous évoquez par exemple, c'est ses réflexes, on peut bien sûr, je peux cligner volontairement mes paupières, mais elles clignent spontanément sans que j'y aille penser, donc ce sont des éléments végétatifs. Moi j'invite simplement nos auditeurs, en conscience, en raison, à observer malheureusement, puisqu'il y a eu deux vidéos qui ont été diffusées, je crois que c'était l'une en 2015 et tout récemment. C'est un scandale sur des pleins de sujets, mais c'est pas mon propos. Je les invite à les observer. Vous verrez que M. Lambert est dans la même position, avec un regard oculaire qui est au même endroit, et effectivement une tête toujours tournée du même endroit. Donc on peut, encore une fois, j'en veux à personne, mais je vous invite à faire confiance au corps médical et au plus haut niveau du corps médical qui a su et qui a pris ses responsabilités.
Olivier Alcaïm, on va vous retrouver un peu plus tard dans l'interview, mais vous avez vu d'autres médecins pour votre papier, notamment le médecin conseil des parents de Vincent Lambert qui l'a examiné à plusieurs reprises et qui a un tout autre avis. Hein.
Oui, il a l'avis suivant, c'est que c'est une personne qui est lourdement handicapée, mais qui se réveille le matin, s'endort le soir, qui respire sans respirateur artificiel. Effectivement, il est nourri, disons qu'il bénéficie d'une nutrition et d'une hydratation par une sonde, mais pour lui... ça nécessite du coup que ce patient soit maintenu en vie et pas plongé dans une sédation profonde et continue.
Même s'il reconnaît que son état n'évolue pas, qu'il est
oui,
dans un,
tout à fait, tout
quelque
à fait.
Chose de chronique c'est... ou d'irréversible.
On est en train de parler donc du docteur Ducrot qui est le médecin conseil des parents.
Éric Carrière, s'il n'est pas en fin de vie, on va développer ça plus avant dans quelques minutes, mais s'il n'est pas en fin de vie Vincent Lambert, de quel droit peut-on procéder à l'arrêt des traitements sur la base de ce qu'il disait de son vivant ?
Alors, il est bien évidemment, les volontés d'un malade sont au cœur de nos législations respectives de 2002, de 2005, de 2016. Ce qui fait aussi la décision, c'est-à-dire qu'en fait, là, aujourd'hui, c'est les opinions qui font le problème et les émotions. Puisque les faits, même le médecin conseil des parents Lambert, confirme le diagnostic et le pronostic état végétatif irréversible, la médecine est capable de maintenir des vies qui ne seraient plus là si la médecine ne s'en mêlait pas. Alors c'est vrai que la nutrition et l'hydratation artificielle, il y a un élément fantasmatique dans l'opinion qui est plus fort qu'un respirateur, qui est plus fort qu'un dialyseur rénal. Mais je vous rappelle encore une fois que vous et moi, nous sommes en droit de refuser tout traitement qu'on considère comme déraisonnable.
Et la nutrition et l'hydratation, c'est un traitement ?
C'est un traitement, puisque par définition, ça fait appel, ça ne répond pas à des besoins fondamentaux. Je vous rappelle, ce patient, on le nourrit et on l'hydrate contre son gré, et pas pour satisfaire un besoin, puisque les cérébraux, les égraves, n'ont plus faim et n'ont plus soif.
Olivier Alcaïm de l'hebdomadaire La Vie, Éric Carrigère, ancien médecin de Vincent Lambert. On va vous retrouver après une courte pause.
Europe 1. Jusqu'à 10h, vous écoutez C'est arrivé cette semaine et c'est avec vous, Patrick Cohen.
Avec en direct ce matin, Olivier Alcaïm de La Vie et Éric Carrigère, l'ancien chef de service de soins palliatifs au CHU de Reims, qui avait entamé début 2013 un arrêt des traitements avec l'accord de l'épouse de Vincent, hein, qui est sa tutrice légale, mais sans associer à cette décision les parents Lambert. C'est le péché originel, Éric Carrigère.
A posteriori, je pense que c'est surtout une manière, un alibi à refuser les choses, puisqu'entre-temps, il y a eu d'autres collégiales, et on a tout remis sur le tapis. Il y a eu 3 médecins qui se sont succédés, des expertises médicales et judiciaires qui se sont succédées. Et on voit bien que même sans ce péché originel, que j'ai toujours regretté et assumé, je pense que malheureusement, nous en serions quand même à ce stade.
Oui, mais c'est bien de le redire aujourd'hui. Vous regrettez processus.
Vous savez, je suis un homme qui recherche l'excellence. Donc, quand je ne suis pas excellent, je le regrette, bien sûr.
Ouais. Olivier Alcaïm, est-ce que compte tenu des convictions des parents, les associer davantage aurait changé les choses?
C'est-à-dire que ce qui est curieux quand même dans cette affaire, c'est que pendant 5 ans, les parents, on ne les voit pas. Entre 2008 et 2013, ils n'apparaissent pas dans l'affaire. Et d'ailleurs, il n'y a pas vraiment d'affaire, en réalité, entre 2008 et 2013. Et il est vrai qu'en 2013, quand le docteur Carrigère donc, entreprend ses démarches, vous êtes en face de moi, donc je me permets de vous parler, c'est vrai que vous n'associez pas les parents, et je pense que c'est ce qui fait flamber l'histoire et c'est ce qui la judiciarise.
Il faut raconter quand même que les parents Lambert se rendent compte, apprennent par hasard en rendant
visite.
Voilà,
alors c'est ce qu'ils racontent. Peut-être que le docteur Carrigère aura une autre opinion, mais ce que les parents Lambert et leur avocat me racontent, c'est que ils ne sont pas au courant que, au hasard d'une visite d'un cousin ou d'un frère, du frère, voilà, à l'hôpital, au bout de 30 jours, ils s'aperçoivent que donc Vincent Lambert est très amaigri, qu'il n'est plus nourri, qu'il reste hydraté, sinon il serait mort beaucoup plus rapidement. Et donc là, c'est disons une flambée de juridique. Là, ils vont s'opposer à tout.
C'est là, effectivement, que commence le conflit familial et la controverse juridique. Éric Carrigère.
Encore une fois, Madame Lambert, je vous rappelle que dans l'esprit de la loi, mais être légaliste ne me suffit pas, j'ai être aussi moral, c'est que sur le plan légal, Madame Lambert avait été reçue avant qu'on entreprenne l'arrêt des traitements, pour lui annoncer qu'on ambitionnait l'arrêt des traitements. Je l'évoquais dans les détails dans le livre que j'avais publié pour expliquer pédagogiquement à la population ce qu'était l'affaire Lambert. Et donc, elle était informée. Et Madame Lambert, mère, son mari n'avait pas pu l'accompagner, m'avait parfaitement expliqué qu'elle aurait, de toute manière, elle refusait l'arrêt des traitements. Donc, et peut-être que ça a été un élément pour que mon équipe ne la prévienne pas. De toute façon, elle aurait refusé. Donc moi, je peux vous dire, et c'est pas pour me déculpabiliser, et déculpabiliser mon ancienne équipe, il y aura eu affaire Lambert, quelle que soit la perfection de notre approche initiale.
Ma question, c'est pourquoi vous avez continué à ce moment-là à l'hydrater, Vincent Lambert ?
Oui, Vous avez arrêté la nutrition et pas l'hydratation.
Parce que nous avons une culture, effectivement, Monsieur Lambert est dans l'unité cérébro-lésée grave du CHU de Reims, couplée à l'unité de soins palliatifs, mais parce que notre culture, effectivement, du respect de la vie et d'une vie qui prend fin, notre ambition n'était pas d'accélérer. Et l'hydratation pour nous était, encore à l'époque, pardonnez-moi, j'ai aussi appris, si ce n'est des erreurs, c'est qu'aujourd'hui, l'hydratation, même fine, même en petite quantité, peut prolonger, et ce temps de l'agonie, à l'égard des proches comme de la population est une relation qui est vécue comme maltraitante.
C'est pour ça que votre successeur, le docteur Sanchez, a fait un choix différent, c'est-à-dire d'arrêter en début de semaine la nutrition et l'hydratation.
Qu'entre-temps, il y a eu une jurisprudence Lambert, il y a eu les sociétés savantes qui se sont bien positionnées, et puis il y a une loi Léonie Ticklès qui cadre parfaitement les conditions d'arrêt de traitement d'hydratation et nutrition chez un patient végétatif comme M. Lambert, c'est-à-dire sédation profonde et continue terminale jusqu'au décès, plus analgésie de précaution au cas où le corps souffrirait.
Vous voulez dire que sur un plan légal, les choses sont maintenant bien encadrées.
Et c'est pas seulement sur le plan légal, c'est également sur le plan médical. C'est-à-dire, je pense qu'en 2013, on ne savait pas vraiment bien faire. C'est-à-dire que les choses quand même évoluent avec la loi et avec le temps.
Évitons de faire de l'anachronisme qui est intellectuellement très dangereux.
Il y a la loi Léonetti 2005 et celle de 2016 qui approfondit la loi de 2005.
Ses parents Lambert, Éric Carrigère, vous les avez rencontrés, vous les fréquentiez à ce moment-là, vous leur en voulez particulièrement. Ils ont tenté ou ils vous ont poursuivi pour assassinat.
Oui, comme ils ont tenté de poursuivre, ils ont menacé le docteur Daniela Simon, comme ils menacent aujourd'hui le docteur Sanchez. Je pense que là, l'opinion aussi saura faire la part des choses. Tout ce qui est excessif est insignifiant, dit le dicton. Mais j'arrive pas à avoir quelconque sentiment négatif à l'égard de ses parents. Parce que je les vois bien sûr comme parents, et on l'est tous, pour ceux qui ont la chance de l'être, on sait ce que ça veut dire. Je les vois comme des êtres souffrants, âgés, fragiles. Et donc je ne leur en veux absolument pas. Je suis beaucoup plus dur dans mes jugements, même si je le gardais pour moi, à l'égard d'un certain nombre d'intellectuels, politiques, scientifiques, médecins parfois aussi, qui, eu égard à leur niveau de compétence et de connaissance, racontent n'importe quoi et continuent à balancer de l'huile sur un feu qui est déjà bien malheureusement vif.
Alors on va en parler dans un instant avec Olivier El-Khaïm, justement de ce contexte intellectuel et disons religieux ou militant et familial. Éric Carrigère, vous restez avec nous, à tout de suite.
Europe 1. Chaque samedi de 9h à 10h, vous êtes avec Patrick Cohen. Vous écoutez Cette Arrivée cette semaine sur Europe 1.
On parle de l'affaire Vincent Lambert avec Olivier El-Khaïm de l'hebdomadaire La Vie et Éric Carrigère, l'ancien médecin de Vincent Lambert au CHU de Reims. Olivier, parlez-nous de cette famille qui se déchire aujourd'hui, fratrie hors normes que vous racontez dans votre papier de La Vie. 9 enfants de 3 lits différents, 2 divorces, des réunions de famille électriques. On est à Châteauroux au début des années 70.
Voilà, alors moi ce qui m'a vraiment intéressé, au-delà du cas médical et judiciaire, c'est de comprendre le terreau où tout se joue. En réalité, il faut effectivement imaginer la vie à Châteauroux au tout début des années 70. Pierre Lambert est gynécologue dans un cabinet avec sa première femme, qui est gynécologue aussi, et leur secrétaire, c'est Viviane Lambert. Et va se nouer un jeu sentimentalo de couple, on va dire, de sentimental entre eux.
Viviane qui est mariée par ailleurs.
Viviane est mariée par ailleurs, je crois qu'elle a 3 enfants, lui en a 2. Et il se trouve que dans un cadre hors mariage, ils vont avoir 3 enfants, Pierre et Viviane, qui vont être reconnus par le premier marié de Viviane. Bref. Tout ça est très compliqué.
Vincent a 2 papas.
Vincent va appeler 2 hommes papa. Et puis finalement, tout ce beau monde va se séparer, divorcer. Et puis Pierre et Viviane vont se marier. Mais ça crée une situation familiale que je pourrais qualifier vraiment de hors norme. Quand bien même je pense que c'est une famille française à laquelle aujourd'hui tout le monde peut s'identifier. Et c'est pourquoi cette affaire continue de nous fasciner et nous fait tant parler.
Affaire, famille, en tout cas, qui baigne dans le milieu catholique intégriste.
Oui, alors c'est bien que vous le précisiez, parce qu'en effet, à Châteauroux, au début des années 70, ce gynécologue Pierre Lambert fait partie d'une association, comme on dit, pro-life, donc anti-avortement. C'était juste avant la loi Veil. Il participe, il dirige la section « Laissez-les vivre ». Et il rencontre à cette occasion-là Monsieur Lejeune, le professeur Lejeune. Et on va voir qu'à la suite des différents problèmes juridiques et médicaux, en réalité, la Fondation Lejeune va revenir au milieu de cette affaire-là.
Alors oui, c'est ça. Quelle est la part de la religion et du militantisme dans le combat mené aujourd'hui par une partie de la famille?
C'est-à-dire qu'il y a quand même 2 parties de la famille qui s'affrontent. Et moi, je trouve que c'est très symptomatique de la France de manière générale. C'est-à-dire, il y a une partie, effectivement, catholique, très conservatrice, très intégriste, on va dire, et une partie qui se dit, selon, disons, une sémantique dissymétrique, mais qui se dit éclairée et voulant accélérer, disons, la fin de vie de leur frère.
Et pour certains qui se sont érigés en rebelles, ou, enfin en tout cas qui ont eu une qui se sont rebellés contre l'éducation intégriste qu'on leur avait infligée. Bah,
c'est la majeure partie des frères et sœurs d'ailleurs se sont effectivement rebellés contre les parents. Les parents sont aujourd'hui avec un des frères seulement. Tous les autres veulent la fin de vie de Vincent Lambert.
Éric Carrigère, vous êtes souvent présenté comme un chrétien engagé et anti-euthanasie. Que pensez-vous de ce combat-là? Il y a une forme de dévoiement du combat religieux. Quel est votre regard là-dessus?
Pour moi, il est contraire aux valeurs aimantes, aidantes et miséricordieuses de l'éducation religieuse que j'ai reçue et de la foi que je porte. Et je le dis à multiples reprises, aujourd'hui, un médecin, qu'il soit chrétien ou pas chrétien, doit mener un combat professionnel contre l'obstination déraisonnable, au sens large du terme. Et donc, laisser partir une vie qui prend fin, qui, ce n'est pas accélérer la mort, c'est respecter les limites d'une médecine. Aujourd'hui, M. Lambert est en vie parce que la médecine, contre son gré aujourd'hui, puisque les médecins veulent l'arrêter, et c'est d'autres qui empêchent de faire le boulot et de respecter leurs valeurs déontologiques. Aujourd'hui, M. Lambert est maintenu en vie à cause et grâce à la médecine, contre ses volontés, contre le diagnostic posé, contre le pronostic médical et judiciaire posé. C'est ça qui est grave. Et médecin chrétien ou pas, ce n'est pas le problème.
Vous avez pris beaucoup de coups hein, dans cette histoire. C'est une affaire qui a changé votre vie, qui a conduit à d'autres choix professionnels pour vous, Éric Carrigère.
À la fois, on grandit nos expériences, aussi douloureuses soient-elles. C'est sûr que je suis différent. Mes fondamentaux n'ont pas bougé. Mon engagement au service de la vie, je me revendique toujours comme un pro-life, mais un pro-life raisonnable, raisonné, dans une société qui grandit en maturité, en autonomie. J'ai d'autres destins professionnels qui ont dû se dessiner suite à ça. J'en fais aujourd'hui une chance. Je suis un garçon à regarder devant. Mais c'est vrai que je n'arrive pas à tourner cette page non pas par excès, parce que ce n'est plus mon affaire, mais parce que derrière, il y a une cause d'une certaine médecine de l'homme qui se joue. Et aujourd'hui, si je suis encore à votre micro, ce n'est pas parce que je n'arrive pas à me détacher de l'affaire, c'est parce qu'il y a un enjeu sociétal, humain, et de l'exercice de la médecine qui sera de plus en plus marqué, puisque les médecins n'ont jamais été aussi forts à maintenir des vies déraisonnablement.
Olivier Alcaïm, parmi ce qu'on retient de la lecture de votre papier dans la vie, c'est que contrairement aux apparences, ce n'est pas une affaire de pro et d'anti-euthanasie. Ce n'est pas une affaire liée à l'euthanasie.
Oui, mais cette affaire-là a sédimenté deux clans, en réalité. Donc, en effet, vous avez raison de le repréciser, ce n'est pas une affaire d'euthanasie, de pas d'euthanasie, etc. C'est une affaire de deux clans. Un clan, le clan des pro-life, qui utilise Vincent Lambert comme un étendard de leur bataille. Et puis, le clan, disons, dans lequel on peut mettre l'ADMD, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité.
De Jean-Luc Romero.
Voilà, qui milite pour l'euthanasie et le suicide assisté depuis de nombreuses années.
Et qui milite pour que la loi évolue encore.
Il faut quand même dire que ce clan-là est un peu plus sobre dans le combat que le clan pro-life.
On a entendu tout à l'heure, évidemment, le maître Payot, l'avocat des parents de Vincent Lambert, parlait tout à l'heure de remontada, ces cris de victoire au milieu d'une foule qui manifestait à ce moment-là à Paris. Évidemment, ça vous a choqué, Éric Carrigère.
Oui, c'est d'une violence. Beaucoup de gens, encore une fois, qui s'expriment en oubliant M. Lambert. Et moi, véritablement, ce que je souhaite, et je l'avais déjà souhaité à la famille en 2014, après ma deuxième conclusion d'arrêt des soins, c'est que véritablement, respecter la mort qui arrive de M. Lambert, c'est aussi permettre à toute cette famille de se reconstruire, de faire son deuil. Aujourd'hui, depuis 5 ans, c'est de la souffrance à la souffrance, c'est de la manipulation à la manipulation. Il n'y a plus beaucoup de valeur ajoutée à cette situation, à laisser du temps au temps. Et je regrette évidemment, tout en respectant la dernière décision qui me paraît bien simpliste de la Cour d'appel de Paris, qui a interrompu un processus. Félicitations au docteur Sanchez et à ses équipes qui font un boulot formidable.
Merci beaucoup Éric Carrigère d'être venu jusqu'au micro d'Europe 1. Merci Olivier Alcaïm.
On
peut vous lire dans l'hebdomadaire La Vie.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Patrick Cohen sur Europe 1.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Patrick Cohen sur Europe 1.
Il y a un peu plus de 10 ans, il signait une lettre diffusée à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires.
J'ai reçu une lettre, il y a un mois peut-être, arrivée par erreur, maladresse de facteur.
Sur le même album, disque de platine, c'était déjà la fête des voisins, des voisines surtout.
J'ai toujours préféré aux voisins les voisines, dont les ombres chinoises ondulent sur les volets. Je me suis inventé un amour pantomime, où glissent en or et noir tes bas sur tes mollets.
Vous avez reconnu Ronan Luce qui revient avec un 4e album, plus profond, plus grave, avec des arrangements à l'ancienne.
S'habitue à tout, aux colonnes de Buren, à Duchamp, sa fontaine, aux coups de boule de Zizou, aux voix dans l'autotune, à nos villes qu'on enfume, à nos vilaines tout. On s'habitue à tout, voir vieillir ses parents, voir élus des tyrans, aux voix qui amadouent, à se méfier de ce qu'on mange, à se méfier des gueules d'anges, à plus se méfier du tout. On s'habitue à tout, mais ne plus dire je t'aime, s'en remettons quand même, ce baston de mots doux.
Bonjour Ronan Luce.
Bonjour.
Un disque à l'ancienne, disais-je, est-ce que vous acceptez l'expression ?
Oui, parce que c'est indéniable, effectivement, que les échos qui me sont revenus viennent d'une période que j'affectionne, celle des années 60, de cette chanson, moi, qui m'a fait vibrer depuis mon enfance.
Alors, on dira que vous avez fait un très beau 33 tours. On va reparler du style. Mais dans cette chanson qu'on vient d'entendre, on s'habitue à tout. Il y a aussi l'idée que vous, en fait, vous vous habituez pas à toutes les modernités de notre époque.
Oui, alors c'est vrai. Oui, c'est ça, c'est cette observation aussi du monde. Comment on l'a fait aujourd'hui, c'est-à-dire avec un flow ininterrompu, qui n'a un peu ni queue ni tête. On peut passer d'une image d'un chat mignon à un truc très grave. Et voilà, c'est un peu ce mélange des genres que je fais. C'est surtout un sujet à parler d'amour, bien sûr.
Votre album est traversé par une grande peine de cœur, en fait.
Oui, ce sont ces émotions qui m'ont traversé depuis ces 3 dernières années dont je fais état, ce petit voyage intérieur. Effectivement, et ce vertige de la peine de cœur, c'est vrai, oui.
Dans cette liste, on s'habitue à tout, il y a aussi l'autotune, ce logiciel qui déforme la voix et a envahi en grande partie le rap et le hip-hop. C'est une plaie dans la chanson, dans la musique, l'autotune
Mais je ne crois, crois pas dire que je rejette totalement la démarche. Au contraire, je dis que ces choses... au début, on peut s'en offusquer, ne pas la comprendre, et puis tout à coup, ça devient notre quotidien sans plus trop se poser la question de pourquoi, est-ce à bon escient. Chacun après se fait son opinion. On le devine, peut-être un peu moins touché par la profondeur que m'évoque ce genre de voix traitée.
Ouais, de voix métallique et d'aspect un peu synthétique. Mmh. Dans votre album, on est très loin de l'autotune. J'ai isolé quelques orchestrations qui sont absolument splendides. Ça commence par un air de rumba. Voilà, ça c'est sur le titre au début et ça s'achève comme sur une musique de film. Sur la chanson « À bientôt renouveau », il y a donc des cuivres, des bois, des cordes, des instruments qu'on n'entend plus beaucoup dans la chanson française, harpe, flûte, hautbois notamment. C'est votre envie, Ronan Luce ?
Oui, je crois que ça répondait à ce besoin que j'avais, comme je faisais des chansons très, très intimes et très personnelles, je crois que j'ai eu envie de les porter par une musique qui m'est très intime et très personnelle, qui est ma musique de cœur, celle pour laquelle j'ai eu un élan d'amour dans mon enfance, mon adolescence, qui m'a donné envie de faire ce métier. C'était ma manière d'être le plus sincère possible avec ce que je suis, et évidemment avec les émotions dont je fais état, mais aussi par la musique que je présente.
Oui, il y a de l'ampleur et puis il y a de la délicatesse, de la sensibilité. Une rupture amoureuse, on en a parlé. Il y a une petite fille dont les parents sont séparés et qui a des sommeils à deux adresses. C'est dans Berlin, très jolie expression. Et puis des moments de grâce, le charme pur, comme dans cette chanson écrite par Pierre-Dominique Burgot.
J'aurais aimé, si tu me le demandes, être le genre de garçon qui commande du champagne à 15 heures, une terrasse, la douceur d'une journée de printemps, laisser bâiller le temps. J'aurais aimé être de ceux qui rendent les petites choses un petit peu plus grandes, agripper le bonheur aussitôt qu'il affleure, débrancher mon cerveau et rebrancher mon cœur.
Champagne à 15h, c'est pas de vous, Renan Luce, mais ça vous va bien.
Ça, oui, mais alors peut-être parce que c'est une chanson dont l'idée nous est venue ensemble. C'est Pierre-Dominique Burgot est un artiste, un auteur que j'admire énormément. Mais on
le Soldat
aussi.
Rose, beaucoup d'autres choses, évidemment.
Oui, il écrit pour Chamfort beaucoup. Il a une grande sensibilité. Et puis, une après-midi, tous les deux, nous buvions un café bêtement à une terrasse. À côté de nous, une table avec deux jeunes femmes qui riaient aux éclats avec une bonne bouteille de champagne. Et on se faisait cette réflexion un peu amère qu'on avait peut-être ce sérieux, ce trop grand sérieux pour s'accorder ce genre de lâcher prise. Et il a noté cette phrase au vol et m'a proposé ce texte le lendemain. J'en ai fait immédiatement une musique. Donc il y a eu une évidence, un dialogue très mélangé d'amitié et d'admiration que j'ai pour lui.
Donc le champagne à 15h, l'envie vous est venue ensemble. Et l'inspiration en tout cas.
Exactement.
Bon, Renan Luce, à suivre bientôt sur scène. Il y a des dates qu'on peut citer ou...
Ça commence le 12 juillet au Francofolie. Et puis après, on démarre vraiment à l'automne, un peu partout en France. Et Salle Pleyel fin novembre à Paris.
Renan Luce, quatrième album studio. Ça s'appelle tout simplement Renan Luce. Et c'est un très bel album. Bravo.
Merci d'être venu
nous en parler.
Merci.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Patrick Cohen sur Europe 1.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour Dany Laferrière.
Bonjour.
Vous êtes l'homme de trois pays, au moins. Haïti, votre terre natale, le Canada, votre terre d'adoption. Vous êtes exilé pour fuir les Macoutes et le régime Duvalier. Et la France, à qui vous devez votre langue et le fauteuil numéro 2 de l'Académie française, qui fut celui de Montesquieu et que vous occupez depuis 4 ans. Ce qui fait de vous un nomade. Pas seulement un nomade de corps, écrivez-vous, mais un nomade d'esprit, d'idées, de cœur, de sensations. Quelle joie d'aller vers d'autres rives. C'est le titre de ce nouveau livre si original, Vers d'autres rives, dont on va parler. Mais vous savez, Dany Laferrière, que les nomades ne sont pas toujours bien vus.
Oui, c'est vrai que le mot a pris une direction un peu difficile, extravagante, terrifiante même parfois, et pour certains. Mais pourtant, c'est un mot si glorieux. C'était vraiment la première grande différence, c'était entre les sédentaires et les nomades, ceux qui restent, ceux qui ne bougent pas. Mais chacun a sa légitimité, puisque le voyageur, comme on peut appeler le nomade riche, le voyageur, son voyage n'a de sens qu'au retour, quand il rencontre le sédentaire qui lui raconte ce voyage.
Vous êtes un nomade qui n'oublie pas d'où il vient. Et qui il a été, c'est-à-dire un enfant de Petit Gouave, à une soixantaine de kilomètres de Port-au-Prince. Dans ce livre où vous racontez, Dany Laferrière, écrit et dessiné de votre main, il y a quelque chose de très enfantin.
Ah oui, tout à fait. C'est un retour à l'enfance. Et je pense que l'Académie m'a permis ça.
L'Académie française?
Oui, l'Académie
Pourquoi
française. Eh bien, parce que nous sommes libres, nous sommes plutôt âgés. Nous avons pour la plupart fait une œuvre. Nous sommes laissés seuls dans une salle à converser entre nous et nous nous sentons heureux.
Oui. Mais il y a assez peu d'académiciens qui font des livres dessinés et écrits à la main.
Oui, mais ça pourrait arriver.
Ça
parce
pourrait
que,
arriver pour d'autres.
Oui, ils ont bien reçu les livres que j'ai faits dans cette manière-là. Donc, ça pourrait arriver d'un moment à l'autre, oui.
Parce que vous n'êtes pas un dessinateur professionnel. Donc, ça ressemble souvent à des dessins d'enfants. Dessins d'enfants pour de beaux souvenirs d'enfance. Exemple, chaque jeudi, à mon retour de l'école, je mange une bonne mangue juteuse et parfumée, puis je lance mon cerf-volant dans le ciel de Petit Gouave en attendant le passage d'un petit avion jaune qui me signale qu'il y a une vie par-delà les montagnes, des montagnes bleues. Vous aimez toujours les mangues et les,
oui, oui,
et les couleurs.
Oui, c'est vrai. Les mangues jaunes, les montagnes bleues, la mer turquoise. Je suis toujours habité par ces tableaux primitifs de la vie. D'ailleurs, mes vieux maîtres, qui sont les peintres primitifs, et qui m'ont enchanté et qui gardent en eux un secret, puisqu'ils connaissent aussi la douleur. Mais ils préfèrent évacuer la douleur de leur tableau pour ne lui permettre que de les habiter eux-mêmes. Mais ce paysage, je pense que tout le monde a ces images, ces éclats, parce que dans l'enfance, nous découvrons des choses tellement fortes, le brûlé, le froid, le chaud, le rugueux, la glace, et tout, ce sont des sensations. Et il appartient aux écrivains de rappeler ça aux grandes personnes.
Alors, dès le début de ce livre, Dany Laferrière, il y a le retour d'une figure familière de vos lecteurs, votre grand-mère Da, celle qui vous a élevé. Vous parlez de la cuisine de Da. Première phrase, l'art le plus proche de l'écriture reste à mes yeux celui de la cuisine. Et vous nous donnez l'explication après. Da mettait l'eau sur le feu avant d'avoir les poissons qu'elle allait mettre dans la casserole, dans la marmite. Moralité, il faut commencer un livre avant de savoir quel livre on veut écrire.
Ah oui, je crois bien qu'on est écrivain avant de commencer à écrire. Et si on devient écrivain en écrivant, c'est dommage, on va être très déçu de soi-même. C'est une décision. Et bon, tout le monde ne la garde pas jusqu'au bout, mais elle doit être prise bien avant. Et je crois que ce que Da a pris cette décision en mettant l'eau sur le feu avant même d'avoir les aliments qui doivent faire la nourriture du jour. Et j'ai toujours gardé cette détermination première et ces images primitives de la peinture. Ce sont les deux grandes choses, les deux piliers de mon édifice esthétique et émotionnel même. Et c'est tellement simple, ces leçons de l'enfance, parce qu'après avoir mangé, on s'assoit, Da et moi, sur la petite galerie en avant de la maison, elle avec une cafetière et moi à regarder les fourmis. Et dans ce petit tableau très simple, il va se passer quelque chose de magique, du moins dans ma mémoire, pas au moment que ça se passe. Les gens qui passent dans la rue parlent à ma grand-mère, ouais, qui lui répond, et il lui raconte des choses de la vie quotidienne. Et tout cela va tresser un peu la ville.
Ouais.
On va savoir qui fait quoi, et c'est ce que je fais comme romancier.
Vous expliquez que vous arrivez à Miami pour fuir la célébrité. La célébrité, j'ai noté ces phrases, la célébrité c'est une valeur américaine. Elle consiste à déplacer la direction du regard. On vous regarde, vous passez votre temps à éviter le regard des autres. En un rien de temps, vous perdez deux qualités pour un écrivain, la capacité d'observer et le droit au silence. C'est terrible ça.
Oui, pour être écrivain, j'ai regardé, j'ai écouté ma grand-mère et après d'autres personnes et dans la vie courante, ordinaire. Et à partir du moment où j'étais devenu célèbre, et on me parlait, on me faisait parler, c'est ma vie qui intéressait. Et c'est comme un journaliste, dès qu'il passe aux nouvelles, il n'est plus journaliste. Oui, il ne faut pas être plus célèbre que la chose que vous êtes en train d'écrire.
Alors, comment vous faites aujourd'hui ?
Eh bien, là, je reste dans ma chambre et je fais un travail extrêmement minutieux et difficile. J'écris toujours à la main. J'écris un très gros livre en ce moment à la main et je dessine. Et ça prend du temps. Ce n'est plus l'écriture où je pouvais y aller très vite à partir d'idées qui me sont restées de mon sommeil. C'est une écriture qui demande du temps pour lui-même et pour elle-même. Ça veut dire que quand j'ai fini, aussi le livre est terminé. L'éditeur l'édite. Et pour moi, c'était très important de revenir à cette situation très simple. Et c'est peut-être un cadeau qu'on vous donne quand vous entrez à l'Académie française, parce qu'on devient subitement si vieux que personne n'ose reprendre ce que vous avez écrit.
Dany Laferrière, Vers d'autres rives, livre, je le rappelle, donc écrit et dessiné de votre main aux éditions de l'Aube. Merci d'être venu nous en parler.
Merci.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Patrick Cohen sur Europe 1.